Il faut qu'on le fasse ce matin. Ça va être lourd un peu, mais c'est vraiment essentiel. C'est un dossier où j'ai vraiment l'impression. Parce que là, on a une histoire qui est percutante, qui est touchante, qui s'est répandue partout à travers le Québec. Mais moi, j'ai l'impression que on va se répéter. Mais comme ça se règle pas, parfois, c'est utile de se répéter. Alors, beaucoup de gens ont été touchés par la lettre de suicide d'une jeune femme de Trois-Rivières de 23 ans qui a été publiée à sa demande. Son cousin l'a publié en demandant aux gens de partager ça. Elle s'appelle Émilie Hull, Émilie Hull, 23 ans, une jeune infirmière de Trois-Rivières. Et donc, ça a été... et les gens ont répondu en partageant ça. Je sais pas, on est rendu à combien, là, mais c'est...
On peut le retrouver, là, mais c'est viral. Là,
si vous avez pas vu passer ça sur votre Facebook, là... À mon avis, il y a de fortes chances. Alors, dans la lettre, on va d'abord vous parler de la lettre un peu. Et ensuite, Jean-Simon a rejoint la mère d'Émilie, qui a livré un témoignage vibrant. Mais juste avant, qu'est-ce qu'il y a dans la lettre? Beaucoup de gens se sont sentis interpellés. Alors, elle raconte là-dedans qu'elle a des problèmes en santé mentale et que le système l'a en quelque sorte abandonné.
Oui.
Élisabeth.
Je vais vous lire le paragraphe qui parle vraiment du système québécois, mais juste avant, dans le premier, elle met en contexte. Elle dit que, bon, elle est tannée de vivre, elle a mal de vivre depuis très longtemps. C'est pas qu'elle a pas essayé, elle a consulté des psychologues, des psychiatres, elle a essayé plein de choses et ça s'est jamais réglé. Elle a un mal constant. Le paragraphe où elle parle du système. Supporter ce mal intérieur pendant toute une vie, c'est long. Au Québec, il y a un gros taux de suicide et je comprends pourquoi. Je me suis présentée à l'urgence dans le but de me faire hospitaliser car je n'en pouvais plus de vivre comme ça. Je voulais être traitée, je voulais être prise en charge. Pour le psychiatre, je ne nécessitais pas d'hospitalisation. Mais au fond, comment peux-tu savoir ça? Il ne sait pas comment je me sens à l'intérieur de moi. Dans la maladie mentale, la meilleure personne qui se connaît, c'est nous-mêmes. Cette fois-ci, j'ai vraiment voulu m'aider. J'ai cherché des ressources. J'ai appelé à plusieurs endroits. Je suis allée à l'hôpital. Et franchement, rien de tout ça m'a aidé. J'en ai juste été encore plus découragée parce que j'ai eu l'impression qu'on ne pouvait pas m'aider. Je pense que c'est pourquoi il y a un énorme taux de suicide ici et il manque de ressources et les professionnels n'ont pas la formation nécessaire pour nous venir en aide. En fait, je crois seulement qu'ils ne pourront jamais vraiment comprendre ce que les personnes ayant des maladies mentales vivent et c'est ce qui fait qu'elles finissent par abandonner et en venir au suicide. C'est dommage. Un psychiatre a la formation pour exercer ce métier, mais il ne pourra jamais vraiment comprendre ses patients.
Alors, elle a été... Les faits, c'est qu'elle s'est présentée à l'urgence et que... Je pense qu'elle a dormi une nuit à l'urgence.
Non, même pas.
Même pas?
Non.
Ils l'ont pas renvoyé le lendemain?
Il n'y a pas eu d'hospitalisation. À un autre moment, oui, effectivement. C'est arrivé parce que Émilie a fait 3 tentatives de suicide avant celle du 29 mars qui, malheureusement, a été fatale, a résulté en sa mort.
Une autre fois, ils l'ont gardée pendant une nuit.
Mais pas longtemps.
Parce que j'avais lu ça. Mais la dernière fois, là... Ils l'ont reçu à l'urgence, ils ont donné des pilules, puis reparti chez elle. Savez-vous ce qui me frappe dans sa lettre avant qu'on écoute sa mère? C'est la lucidité. L'espèce de... Tu sais, il y a des gens qui vont dire, oh, quand tu te suicides, ils sont dans des crises de folie, de... C'est bien écrit, c'est posé, c'est ça qui me fait peur.
Ouais, vraiment.
C'est comme un geste, là. Il n'y a pas de grandes phrases. Tu sais, des fois, on pourrait penser que c'est... Je sais pas, moi, c'est pas cohérent. Avez-vous remarqué la lettre?
C'est très bien écrit.
Ouais, vraiment.
C'est bien écrit, c'est calme, c'est un constat, c'est froid. Tu sais, c'est garde. J'ai voulu de l'aide, je n'ai pas d'aide. Puis là, il faut savoir qu'elle écrit cette lettre-là, j'imagine, quelques temps avant de passer à l'acte.
Oui, quelques temps. Puis je vais vous lire juste une autre phrase qui démontre toute sa lucidité, là. Elle dit, j'ai eu un mal de vivre depuis que j'ai 12 ans et maintenant j'en ai 23. J'ai 23 ans et je suis déjà tannée de la vie. J'ai hâte que mon heure arrive.
Tu sais, là, je vais parler en termes de préjugés, là, OK? Tu sais, quand on parle de santé mentale, les gens vont dire, c'est des fous, des folles, c'est la folie. C'est beaucoup plus profond que ça, là, en termes de préjugés. Voyez comment ça l'aide, comment est-ce qu'elle est lucide, comment est-ce qu'elle semble consciente. Il y a même une forme de rationalité, là, tu sais, c'est voici, puis c'est terminé.
C'est encore plus effrayant.
Ça me donne en plein ça. C'est ça qui me fait peur. Donc, tu as parlé à sa mère, Jean-Simon.
Marie Dionne est la mère d'Émilie. Merci pour sa confiance. Elle a accepté de livrer son expérience avec moi. Je voulais mentionner, Émilie a tenté par 3 reprises d'attenter à ses jours avant la tentative fatale du 29 mars dernier. Le point tournant de sa dernière crise, en quelque sorte, ça a été le fait que sa conjointe lui a annoncé un break. En langage populaire, là, de lui annoncer qu'elle voulait prendre une pause. De façon, finalement, puis elle était très, très attachée. Et c'est là qu'elle a commencé à vraiment mal filer. Et c'est elle-même qui a lancé le cri d'alarme à sa mère. Elle va nous le raconter, là. Mais elle va nous raconter comment elle est partie en ambulance vers l'hôpital et sa fameuse prise en charge, puis là, j'ouvre les guillemets.
La seule façon qu'elle, elle a trouvé, c'est je vais me rendre à l'hôpital. Eux autres vont me prendre en charge, puis ils vont m'envoyer à un endroit qui peut m'aider. Le psychiatre, il a dit que à l'hôpital, mettant en psychiatrie, que c'est pas sa place. Sauf que c'est pas en 10 minutes que t'es capable de connaître la personne puis les besoins qu'elle avait. Là. Puis à l'urgence, je vais dire, comme on dit, ça paraît pas, ça, hein, ce mal-là. Fait qu'ils vont prioriser d'une personne que, il y a un exemple, un bras de cassé, puis... Je pense que le but, c'était d'alléger l'urgence, puis envoyer, on va changer la médication, puis on va la retourner. T'sais. Mais elle, quand elle a vu ça, sa seule porte de sortie, c'est fini.
Mais oui. C'est sûr que si t'arrives à l'urgence, puis ton front saigne parce que tu t'es pété en tête, ils vont te faire des points de suture rapidement. Mais si tu saignes de l'intérieur, si c'est ton cœur, si c'est ton âme qui saigne, c'est ça tout le problème de la santé mentale. Ça paraît pas. Tu sais, elle a dû rentrer sur ses deux jambes à l'urgence, malgré qu'elle souffrait à l'intérieur de façon qu'on n'est même pas capable d'imaginer. Le reste, il est là tout le malaise un peu, puis le tabou aussi de la santé mentale. Fait que, dans le fond, elle est allée là, ouais. Puis elle est repartie.
10 minutes, une prescription, essentiellement, c'est ça.
Ouais.
Et là, sa mère, rapidement, se rend compte que ça va pas. Ça va pas, et c'est la semaine du 25 mars, c'est la semaine avant le jour funeste. Et sa mère s'inquiète et elle va tenter de trouver des solutions par elle-même.
J'ai fait des tentatives. Tu savais le nombre d'endroits que j'ai essayé d'appeler pour être capable. J'ai appelé Montréal, j'ai appelé Québec, j'ai appelé dans des centres que je faisais des recherches sur Internet, des centres d'hébergement pour quelqu'un qui puisse y aider, mettons, là. Puis ouais. Des endroits que j'appelais, là, c'était soit que c'était des endroits pour adolescents. D'autres places, il fallait qu'elle soit toxicomane, alcoolique ou qu'elle ait des problèmes de jeu. Un autre endroit, il fallait qu'il y ait un billet de référé du médecin, mais un médecin, t'as pas ça en claquant des doigts non plus. T'sais, c'était là qu'elle en avait besoin. C'était pas trois semaines après, là. Puis en tout cas, elle avait 23 ans, fait qu'on pouvait pas l'enfermer dans sa chambre non plus parce qu'elle habitait un appartement à l'extérieur, à Trois-Rivières. Fait qu'elle, elle a dit, là, je vais aller vivre ma peine, puis dans mes affaires, puis tu sais, je pouvais comprendre. Fait que là, on a respecté ça, puis on a dit, on peut pas l'attacher non plus, sauf que quand, avant qu'elle parte, on lui a dit, tu sais, je veux que tu me donnes des nouvelles le matin, le soir, puis tu sais, qu'elle nous rassure, puis elle m'avait dit, maman, si tu m'appelles, je vais te répondre, tu sais, parce qu'elle savait qu'on vivait de l'inquiétude, là, tu sais, quand on y repense, probablement qu'elle, c'était déjà prévu, là, tu sais, c'est comme si elle ressortit le mercredi, puis rendu au vendredi, là, c'était assez.
Je vais, dans les prochaines minutes, pour plusieurs personnes, mais vous allez me pardonner ça, là. Pardonnez-moi, mais je vais radoter un peu, là. Juste vous démontrer à quel point ça peut être... C'est pas un cas isolé, parce que c'est un cas isolé. C'est évidemment que ça diminue pas la peine des proches, de la famille, le drame, mais tu sais, est-ce que... Mais c'est pas un cas isolé. Je vous répète, vous l'avez tous déjà entendu, là. L'histoire de la mère qui appelle la police parce que son fils vient de s'ouvrir les veines. La police de Québec débarque, prend l'individu puis l'amène à l'urgence. Bon, une fois qu'il est là, on pense qu'il est en sécurité puis ça va bien. Le lendemain, il y a un accident sur la rue Charest à Québec, en bas ici. Le même policier est appelé à se rendre sur les lieux de l'accident, c'est un camion qui a heurté un piéton. En tout cas, c'est ça qu'on pense. Le policier arrive sur le terrain. Il prend le... C'est un jeune homme qui s'est fait frapper par un camion. Et au moment où il porte secours, il reconnaît l'individu de la veille. C'était pas un accident. On apprend que c'est un piéton qui s'est jeté devant un camion. Il n'y a pas eu, je pense, 24 heures entre les deux événements. Il rentre à l'urgence. Fort possiblement que ça a été la même chose qu'Émilie. On lui a donné des médicaments, on l'a ressorti. Le lendemain, autre tentative. Et coïncidence, c'est le même policier qui est intervenu dans les deux cas. Je l'ai déjà compté, ça. Mais quand on l'a compté, c'est parce que ça n'a rien changé. Fait que ça se peut que je la raconte encore. Donc, comment la mère d'Émilie a appris la nouvelle? Elle nous raconte donc les tentatives pour obtenir de l'aide, elle cherche, elle fait des démarches, il n'y a rien qui fonctionne.
De la pire des façons pour un parent.
C'est nous autres qui l'a trouvé. Parce que moi, elle nous avait donné des nouvelles jusqu'au vendredi soir. Elle nous avait texté. Puis elle nous avait envoyé une photo de son chat. Puis elle nous avait pas texté pour nous dire qu'elle s'en allait se coucher. Mais tu sais, on a dit qu'elle a peut-être pris sa médication, puis elle s'est endormie. Puis là, le lendemain matin, ben, son ex-conjointe, en tout cas, il avait pris comme un break. Elle m'a texté le lendemain matin, puis elle m'a dit, j'ai essayé de parler à Émilie, puis elle m'a pas répondu. Elle a dit, j'espère que c'est parce qu'elle dort. Puis j'ai essayé de l'appeler, puis là, elle a pas répondu. Pour nous autres, c'était comme un peu un message que c'était fini, parce qu'elle m'avait vraiment dit, si tu m'appelles, je vais te répondre. Fait que là, on s'est rendu à son appartement, puis tous les rideaux étaient fermés.
Alors, on dit souvent que le suicide, ça fait plus qu'une victime. Il y a des gens, c'est sûr que pour les gens autour, il y a des traumatismes, il y a des... Aucun doute là-dessus. Et là, on veut au système?
Oui. D'abord, juste vous spécifier, dans la dernière extrait, elle a dit qu'elle avait envoyé une photo de son chat avant la dernière communication, finalement. Et la lettre qu'elle a écrite, elle l'a écrite sur son ordinateur. Et ses parents ont fait un plus un. Le mot de passe de son ordinateur, c'était le nom de son chat. Et ce qu'ils ont trouvé, en ouvrant l'ordinateur, c'était la lettre d'Émilie. Donc, elle voulait que cette lettre-là soit retrouvée. Et oui, elle en veut au système, elle l'a mentionné, elle a fait des démarches. On peut pas dire que Mme Dion n'a pas essayé, n'a pas tenté de retrouver des ressources. Donc, malheureusement, oui, elle en veut au système public qui a laissé tomber sa fille.
Tant qu'à moi, ils n'ont pas approfondi. T'investigues une personne 10 minutes de temps, puis en principe, son dossier médical, ils ont accès à ça. Ils devaient le voir qu'elle avait fait 3 tentatives de suicide avant, là. Puis t'arrives en ambulance, t'es en détresse. Moi, c'est une lumière qui allume, là, je ne sais pas, là, mais j'ai un peu de misère à comprendre ça, que, en tout cas, que tu puisses donner une médication qui peut prendre jusqu'à un mois à faire effet, en sachant qu'elle a déjà fait 3 tentatives de suicide, puis qu'elle allait se repartir. T'sais, j'en veux un peu à tout ça, parce que, t'sais, elle, c'était ça qu'elle voulait être prise en charge. T'sais, en se rendant à l'hôpital, à sa dernière issue, puis en réalité, c'est pas ce qui s'est passé pantoute, là. Elle s'est pas fait écouter pantoute, là. T'sais, elle retourne avec une médication nouvelle.
Non, parce qu'il y en a qui ne demandent pas d'aide, il y en a que les signaux sont presque pas visibles, là, puis bon, c'est tel que tel, c'est tout aussi dramatique, mais là, on se dit, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Mais ça, ça existe, ça. Tu sais, Pat Lagacé encore en raconte ce matin, puis lui aussi, il a l'impression de se répéter, c'est ce qu'il dit. Il y en a plein qui se rendent à l'urgence. Mais le système, les enfants pauvres du système de santé au Québec, c'est les gens atteints de santé mentale. Vous savez pourquoi? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est parce que c'est les gens qui descendront pas dans la rue. Ils iront pas, tout le monde en parle, ils feront pas de téléthon, ils feront rien. C'est la santé mentale, c'est tabou, c'est gênant, les gens ont peur de parler. Et, là, c'est très cruel ce que je vais dire, mais excusez-moi, je le crois. Les gens qui dirigent le système, évidemment, je parle pas des psychiatres ou des infirmières ou de ce monde-là, les gens en haut le savent, dans la tour d'ivoire de la santé. Ceux-là, je parle des grands cadres, là. Ceux qui festoient sur la grande allée un peu partout, ceux qui ont le vrai pouvoir au Québec, sont parfaitement conscients et lucides et ils savent que c'est pas une menace pour eux. Les gens qui souffrent de santé mentale barreront pas les rues, iront pas donner ben des entrevues à la TV. Ils dérangent pas la machine et le système. Alors que, je voyais encore un témoignage l'autre jour à la TV, touchant, de quelqu'un qui a plus de bras, plus de jambes. Ou à peu près pas, là. Ben, il se bat, lui. Il est capable d'appeler TVA, puis il se bat, malgré qu'il n'y a pas de jambes, puis pas de bras. J'y enlève rien, ça prend du courage pareil. Oui. Faire ce qu'il fait, là. Mais vous me suivez? Alors que les gens dépressifs, santé mentale, ça, ils ont même pas la force de se lever, d'aller affronter la réalité, de sortir, etc. Quand t'es en grosse dépression, quand il n'y a rien qui marche, t'es isolé. Donc, la machine leur pile dessus. La machine les écoute pas. Parce qu'ils sont pas une menace pour le pouvoir. Alors que l'autre qui est à la TV, même pas de bras, pas de jambes. Oh, Québécois en a parlé, les autres médias aussi. Oh, là, la ministre va réagir. Elle est préoccupée. Puis là, elle va agir. On va débloquer des fonds. On voit ça souvent. J'en ai gagné plein de combats. Ici, là, pour plein de gens qui ont des cancers, des maladies, des affaires, on a parlé de ça en ondes, puis le lendemain, le ministre ou la ministre réagit. OK, je débloque des fonds. Est-ce qu'ils le font pour la... J'espère qu'il y a une partie d'eux qui le font pour la bonne... pour les bonnes intentions, les bonnes raisons. Mais en réalité, c'est peut-être juste que là, c'est menaçant, là. Les gens peuvent se mobiliser. La santé mentale, ça paraît pas. Ça paraît pas dans la face du monde. Ça paraît pas dans la rue. C'est des gens complètement démunis. Fait que la machine peut les oublier.
Parlant de machine, j'ai demandé à Mme Dion un message pour Mme Mécan, ministre de la Santé, peut-être aussi M. Lionel Carman, qui est aux services sociaux.
Ben, qu'il y a un manque flagrant de ressources pour ces personnes-là, puis c'est ça qu'elle dit, Émilie, dans sa lettre, c'est ce qu'on veut dire, c'est que elle a payé de sa vie, mais comment qu'il doit en avoir d'autres que ça va en arriver là? S'il n'y a pas d'argent investi pour ces personnes-là, elle ne sera pas la seule, puis c'est sûr qu'il faut arrêter, ça n'a pas de bon sens, parce que je suis sûre que ça avait eu l'aide nécessaire avec les personnes formées pour être capables d'y aider, puis de s'asseoir avec elle, de voir vraiment le mal qu'elle avait à l'intérieur, elle serait peut-être encore en vie aujourd'hui.
5 000 patients à Robert Giffard il y a quelques années. 5 000 lits. C'était probablement trop. Il y avait de l'abus à l'époque. Là. On ne veut pas revenir à ça, là, à tout ce qui se faisait avant. Mais prenez ça en note, les amis. 5 000. Il en reste combien? 150. La population de Québec a doublé. Ils sont où? Ils sont dans la rue. Ils sont quelque part. Ils sont dans leur chambre. Ils sont isolés. Ils sont comme Émilie. Ils vont à l'urgence, puis envoyés dans l'appartement tout seul avec ton chat, puis essayent de passer au travers. On les a laissés tomber.
Il y a plusieurs réactions, 25226. Je vais t'en lire quelques-unes, parce que je pense que c'est important. Claire nous écrit, si vous saviez à quel point c'est souffrant et à quel point il n'y a pas d'aide et de ressources. Le père de mes filles s'est suicidé il y a 9 ans. J'ai tout tenté avant qu'il passe à l'acte pour trouver de l'aide et ensuite de l'aide après sa mort. 9 ans plus tard, ma fille est encore en dépression. Elle n'a pas de médecin de famille. C'est l'enfer.
Elle n'a même pas un médecin de famille.
Non. Elle n'a même pas de médecin de famille. Quelqu'un dit, j'écoute l'histoire ce matin et ma sœur a fait exactement le même cheminement qu'Émilie. Ça va faire 1 an, le 24 avril. Des histoires comme ça, écoute, il y en a plein, là. Quelqu'un dit, j'étais à l'hôpital aussi pour un mal de vivre et le psychiatre m'a aussi dit que c'était pas ma place et m'a retourné chez moi. Ensuite, quelqu'un, Nadia nous écrit, il n'y a pas si longtemps, il y a 2 sœurs qui se sont présentées à l'hôpital avec leur frère suicidaire. C'est vrai, c'est arrivé dans la région de Montréal. L'homme n'a pas été hospitalisé. Il est décédé quelques jours plus tard. Après être sorti de l'hôpital.
Ça, on peut blâmer le gouvernement. Je l'ai fait tantôt sévèrement et j'assume, mais on peut aussi se regarder dans le miroir. Chacun d'entre nous. En passant, je me mets là-dedans, là. Quand un collègue rentre au bureau avec un bras cassé, on va le voir, on sait quoi faire, on va l'aider. Est-ce que je peux, hein, dans tes tâches, tout ça, puis on va lui demander de raconter son épreuve. Ah, tu t'es pété la gueule en ski, on sait bien, toi, tu prends des risques. Puis si un collègue rentre d'une dépression au bureau, on regarde ailleurs, on a un malaise, on veut pas trop y parler. Avouez, là. Pas pareil, là. Quelqu'un qui rentre d'une fin de semaine de ski, le bras cassé, puis l'autre qui rentre d'un mois en dépression, en burn-out, sur le travail, pas pareil, pas tout, là. On sait pas quoi faire, on est impuissant, on va tous s'émouvoir avec raison. En passant, avec raison. Téléthon Enfant Soleil. Les jeunes atteints de cancer qui montent sur scène puis qui chantent avec des artistes, c'est émouvant. C'est touchant, puis on donne pour de bonnes raisons. Soyez conscients qu'il n'y aura jamais de téléthon pour la souffrance mentale parce qu'il n'y a personne qui veut grimper devant une caméra quand tu as le mal de vivre, puis tu files pas, puis tu te sens pas bien. Fait que c'est une autre forme d'injustice. On donne pour ceux qui sont capables de nous émouvoir avec des artistes. On donne pour ceux qui sont capables de descendre dans la rue ou d'appeler le Kodak de TVA. Mais la santé mentale, ouf, on en parle quand arrive Émilie Houle, mais on en parle après. C'est trop tard. Est-ce que vraiment il y a un électrochoc? Les gens sont prêts à se battre, à faire de quoi?
Je veux juste finir sur une note d'espoir. Celui-là, il est très bon. Quelqu'un nous dit, chaque cas est différent, mais si je prends mon exemple, 5 hospitalisations avant de trouver la bonne posologie. C'est très long, 5 ans avant de trouver l'aide, mais aujourd'hui, maudit que la vie est belle. C'est triste pour cette jeune femme.
Alors lui, il a réussi, là. Oui, oh, il y en a. Oui. Il y en a quand ils sont bien traités. Demandez au Doc Mayou, demandez à n'importe qui. C'est vrai que c'est long, mais quand tu trouves les bonnes pilules, le bon traitement, c'est une maladie, c'est chimique, oui. C'est dans le cerveau. Je pourrais vous en parler pendant des heures parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Encore là, prenons juste le sentiment de la colère. Je suis en train de lire là-dessus, là, c'est pas sur la dépression, le burn-out, là, mais c'est fascinant. Là. Ils ont vraiment découvert dans le cerveau, là. Évidemment, ils ont pas fait ça exprès, c'est des médecins qui opéraient des gens au cerveau. Puis là, à un moment donné, ils ont comme, peut-être par accident ou tout ça, touché à quoi, là. Mais ça provoque instantanément la colère de l'individu. Juste parce qu'il y a une petite onde électrique qui passe à un endroit. Fait que nos émotions, nos sentiments qu'on pense que c'est notre caractère, puis il y a du monde qui sont forts, puis il y en a d'autres qui sont faibles. Le cerveau déraille des fois. La chimie arrive de quoi? Les gens qui sont dépressifs, qui ont un mal de vivre, il y a de quoi dedans, là? Qui fonctionnent pas comme les autres. C'est pas vrai que c'est des lâches. C'est ça, les tabous, les préjugés qu'on a des fois. Ça, ben, eux autres, ils ont pas de passion, pas capables de travailler, de se lever le matin. Il y a de quoi de chimique entre les deux oreilles que d'autres ont pas. Il y en a qui naissent avec le bonheur facile, c'est génétique. Tu sais l'expression, tu montes tout le temps heureux, on en connaît. D'autres qui naissent pas avec les mêmes gènes, le même cerveau, le même fonctionnement. La journée qu'on va comprendre ça de la maladie mentale, on va avoir fait un pas de géant. Mais on l'entend encore, ça. Ah ouais, t'as burn-out, lui ou elle? Ouais, c'est un faible, ça. C'est lâche, voyons donc. Voyons donc, il est pas comme ça, il a pas de caractère, pas capable de se prendre en main, pas capable de... Alors qu'on dirait jamais ça de quelqu'un qui manque un bras ou qui manque une jambe. Ben, t'es un faible. Ah ouais, donc cours donc, puis fais donc comme tout le monde. Ben non, il y a une jambe cassée. On respecte ça. Mais si t'as de quoi qui est cassé dans ton cerveau, si t'as le cerveau cassé, il n'y a pas de respect.
Si tu nous écoutes, tu files pas un matin, 1-866-APPEL, 1-866-277-3553 ou 211, qui est une espèce de bottin de recueil des ressources publiques, que ce soit un psychologue, un travailleur social, on va vous référer. Donc, 1-866-APPEL ou le 211.